vous présente le deuxième épisode de Civis. Après Daniel QF, on va recevoir Gaspard Ganzer, le candidat du mouvement parisien à la mairie de Paris. On va parler principalement de Paris, mais on va aussi parler d'écologie, on va parler de mouvements citoyens, on va parler de la place du citoyen dans la ville, la place du citoyen en politique. Et puis on va parler de littérature avec des livres comme Ernest Hemingway, des livres qui ont fait Paris. Et on va enfin parler d'histoire. On va parler de Paris comme étant une ville révolutionnaire et de plein d'autres sujets. Gaspard Ganzer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la tête de liste du mouvement citoyen parisien pour les municipales de mars 2020. Vous avez été conseiller en communication de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris, puis de François Hollande à l'Élysée. Vous avez fait l'ENA, vous avez fait Sciences Po, vous représentez ce qui est communément appelé une élite en France. J'aime assez peu ce mot, mais c'est ce que vous représentez. Ma première question va être, comment est-ce que vous ressentez la critique de l'élite qui est faite en France dans les années 2010, depuis 10 ans, notamment par le mouvement des Gilets jaunes et par la montée du populisme en Europe?
C'est une critique qui est assez légitime, je pense, parce que les élites ont largement failli. On a beaucoup misé sur les grandes écoles en France, l'ENA, Polytechnique, HEC, Sciences Po et plein d'autres, normalement l'école normale supérieure. Ça a formé de beaux esprits, des gens qui réfléchissent vite, parfois bien, mais qui ont parfois perdu le sens des réalités ou en tout cas le sens du contact direct avec les citoyens. Donc le fait d'avoir fait ces écoles ou d'appartenir à des grandes entreprises ou des grandes administrations ne fait pas de vous automatiquement quelqu'un de fermé sur lui-même ou qui perd le sens des réalités. Mais il faut quand même observer que les générations qui ont été conduites au pouvoir au cours des dernières années ont parfois manqué d'empreintes territoriales. Et c'est pour ça, on y reviendra tout à l'heure certainement, que moi, dans la façon dont je fais de la politique, j'essaie de moins de penser aux études que j'ai pu faire ou aux administrations auxquelles j'ai pu appartenir qu'au contact direct que j'ai avec les gens.
On va y revenir, vous avez raison, mais en attendant, est-ce que vous pensez qu'avoir travaillé avec François Hollande, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre campagne pour Paris, est-ce que ça vous dessert?
Je ne sais pas, et en fait, je ne me pose pas vraiment la question, parce que moi, je suis extrêmement fier d'avoir travaillé avec François Hollande. Tout d'abord, je suis fier d'avoir travaillé pour un président de la République, et donc pour l'État. Servir l'État, c'est quand même un honneur dans une vie de pouvoir aider à défendre son pays, à le moderniser, surtout que nous, on a eu à vivre des heures terribles, les attentats, des entrées en guerre, des accidents très graves, et puis faire de belles réformes, par exemple, ou de mener de beaux projets, comme l'accord de Paris sur le climat. Et puis, François Hollande est quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, d'intelligent, de généreux, d'extrêmement drôle, et donc c'était un plaisir de travailler à ses côtés. Alors évidemment, il a commis des erreurs, qui n'en connaît pas, la déchéance de nationalité, certainement une partie de la loi travail, peut-être un manque de modernisation du Parti Socialiste, etc. Mais ça n'efface pas l'honneur qui a été pour moi de le servir.
Vous avez parlé de la loi travail. La loi travail et la déchéance de nationalité, c'est des critiques qui ont été très très fortes, qui ont été faites par la gauche, qui sont très très fortes et qui, toujours aujourd'hui, poussent des gens à avoir abandonné le terme de gauche. Vous dites toujours de gauche. Est-ce que vous pouvez définir la gauche et pourquoi est-ce que vous êtes toujours de gauche?
Alors, c'est vrai que je me sens toujours de gauche. Ce qui n'était pas forcément évident pour moi, pour deux raisons. Tout d'abord, parce que ma famille est de droite, à la base, plutôt démocrate chrétienne. Et d'autre part, parce que, ayant servi la gauche au pouvoir, j'aurais pu en être dégoûté. Mais je me considère toujours de gauche, parce que dans les combats que je mène, je considère que ceux qui traditionnellement étaient menés par les sociodémocrates, la lutte contre les inégalités, la recherche d'une démocratie plus efficace, mais aussi la cause écologique, sont toujours centraux aujourd'hui. Alors ça ne m'empêche pas, sur certains sujets, d'essayer de conduire des opérations citoyennes, des rassemblements avec des personnes qui n'ont pas la même histoire que moi. Je peux faire de la politique au sens le plus noble du terme, avec des gens qui viennent du centrisme, qui viennent de la droite républicaine, qui viennent de l'écologie. Mais moi, en tout cas, je suis de gauche et c'est non négociable.
D'accord, très bien. C'est tout à votre honneur. À gauche, en ce moment, il y a une critique qui est très, très, qui prend de plus en plus de place. Il y a plus que très peu de gens à gauche qui se mettent dans le cadre de la Ve République. Qu'est-ce que vous pensez de la Ve République? Est-ce que vous pensez que face à, on revient sur le terme de l'élite, est-ce que face à la critique des élites, etc., est-ce qu'il ne faudrait pas changer de système politique en France? Est-ce que la Ve République est toujours, correspond à votre vision de la France? Est-ce qu'il ne faudrait pas la changer, passer à la Sixième République?
Alors, on peut l'appeler la 6e, la 7e, ou rester dans la 5e République, mais effectivement, il faut changer très largement le système institutionnel qui est à bout de souffle. L'élection présidentielle déforme complètement l'expression du suffrage, puisque les présidents de la République sont minoritaires. Nicolas Sarkozy a fait 30% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. François Hollande, à peu près pareil. Emmanuel Macron, beaucoup moins. Et je ne parle même pas de Jacques Chirac, qui a fait des scores beaucoup plus petits, puisqu'il n'a jamais dépassé les 20% au premier tour de l'élection. Et on donne tous les pouvoirs à un président qui a finalement fort peu de légitimité au moment de l'élection présidentielle. Donc ça ne va pas. D'autant plus que la campagne présidentielle a tendance à hystériser le débat politique, à le concentrer sur des questions de personnes et pas sur des questions d'idées. Le système politique parfait, il n'existe pas, mais en tout cas, il est certain que celui-ci conduit à la concentration du pouvoir et à l'hystérie du débat politique. Donc il faut le changer, certainement en renforçant les pouvoirs du Parlement, en introduisant plus de mécanismes de démocratie semi-directe, des référendums, des consultations citoyennes, et en s'appuyant davantage sur les collectivités territoriales et les corps intermédiaires.
D'accord, donc vous êtes dans un esprit. On a fait une interview avec Daniel Cueff récemment et il nous parlait de son idée de république qui était très décentralisée. Vous, est-ce que vous êtes pour un grand acte de décentralisation,
Ah,
enfin des pouvoirs
alors moi je suis pour renforcer très fortement le rôle des collectivités territoriales, je suis pour renforcer le rôle des organisations professionnelles et syndicales. Je pense qu'on doit consulter beaucoup plus régulièrement les citoyens directement en dehors des périodes électorales. Je crois en la délibération et au consensus. Je pense qu'il faut construire un nouveau consensus démocratique qui ne soit pas dans l'exercice vertical du pouvoir comme c'est le cas actuellement. Le président de la République a même parlé à un certain moment d'action jupitérienne, ce qui évidemment est un problème. Moi, je crois en la libération, mais surtout de la parole et la délibération.
Ok. J'ai le souvenir d'avoir entendu une interview de vous pendant la période de la crise des Gilets jaunes, ce que les gens ont appelé la crise des Gilets jaunes, et où vous disiez être favorable, que vous aimiez bien l'idée du référendum d'initiative citoyenne.
C'est vrai.
Est-ce que vous vous présentez à la mairie de Paris, est-ce qu'un référendum d'initiative citoyenne municipale à Paris, est-ce que c'est envisageable? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a déjà un budget il y a déjà un budget participatif. Donc deux questions, qu'est-ce que vous pensez du budget participatif et qu'est-ce que vous présentez votre programme comme démocratie pour Paris.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, la démocratie parisienne ne fonctionne pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les pouvoirs ne sont pas assez décentralisés au niveau des arrondissements. Cette petite sonnerie est charmante, elle me rappellera qu'on est dans un très bon moment de cette interview. Donc il n'y a pas assez de pouvoir aux mairies d'arrondissement. Deux, il y a un exécutif municipal qui est pléthorique. Il y a plus d'adjoints au maire de Paris que de membres du gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc c'est quand même un problème. C'est à l'origine de beaucoup de surcoûts pour le contribuable parisien. Et trois, il y a des mécanismes d'association des Parisiens aux décisions, mais qui sont malheureusement trop embryonnaires. D'une part, la maire de Paris a arrêté de faire des comptes rendus de mandat. Moi, je crois que c'est la bonne méthode, c'est celle qu'employait Bertrand Delanoë quand il était maire de Paris.
Avec qui vous travaillez.
Oui, j'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années, j'en étais très fier. Il organisait à l'époque, il y avait 20 arrondissements, 20 comptes rendus de mandat par an, et pendant plusieurs heures, les citoyens, individuellement, défilaient derrière des micros posés dans des gymnases ou des salles municipales et pouvaient poser toutes les questions qu'ils souhaitaient au maire de Paris. La maire de Paris a arrêté cet exercice, peut-être parce qu'elle a peur d'être interrogée sur son bilan, et je pense qu'elle a tort, parce qu'on sait très bien de vous rendre des comptes. Mais il faut aller plus loin. Elle a une bonne idée avec le budget participatif, parce que c'est intéressant d'associer les citoyens à la prise de décision. Mais elle le fait de façon anecdotique, parce que c'est simplement sur une partie infime du budget. Moi, je pense qu'il faut élaborer la totalité du budget d'investissement de la ville de Paris avec les citoyens. Donc moi, je propose, si je suis maire de Paris, que la première année soit consacrée à une élaboration délibérative consensuel du budget d'investissement de la ville de Paris, qui représente sur une mandature environ 10 milliards d'euros avec l'ensemble des citoyens. Et enfin, je pense qu'il faut arrêter de faire délibérer les citoyens sur des sujets qui sont en réalité le cœur de la politique municipale comme elle le fait à l'heure actuelle. Alors que, en fait, pour mieux m'expliquer, je pense qu'aujourd'hui, elle se sert du budget participatif pour compenser les failles de sa propre politique municipale. Je m'explique. Par exemple, dans le budget actuellement participatif de la ville de Paris, il est possible de voter pour refaire les toilettes des écoles, alors que ça ne devrait pas être un supplément d'âme, ça devrait être le cœur de la politique municipale, et ça devrait être la maire de Paris elle-même qui le met en œuvre et s'en occupe.
Et donc vous,
Donc moi, la totalité du budget d'investissement sera élaborée de façon consensuelle, il sera voté par référendum, et si les citoyens le souhaitent tout au long du mandat, ils auront la possibilité d'avoir des libres initiatives citoyennes pour interroger le maire de Paris, voire même pour mettre à l'ordre du jour du Conseil de Paris des nouveaux projets.
D'accord. Bah du coup, cette question-là m'a fait passer à Paris. On va parler de Paris. Qu'est-ce que c'est votre période préférée de l'histoire de Paris et pourquoi?
Ah, c'est une question difficile, ça, parce qu'il y en a plusieurs. Je pense que la période quand même la plus féconde, même si elle est aussi extrêmement difficile, parce qu'il y a beaucoup de sang qui coule, c'est la Commune de Paris.
Je connaissais pas.
Parce que la Commune de Paris, c'est vraiment le moment où les Parisiens décident de se révolter contre un pouvoir qu'ils qualifient d'autoritaire. Pouvoir s'installer à Versailles à ce moment-là, dans les mains de tiers, et les Parisiens décident de se soulever contre le pouvoir central. Et je pense que ça, c'est l'âme de Paris, l'âme révolutionnaire des Parisiens contre le pouvoir central. Et toute personne qui oublie que les Parisiens sont un peuple rebelle, insolent, libre, qui n'accepte pas que l'État lui dicte une loi, en s'en sont pour leurs frais. Et donc c'est pour ça que j'aime la Commune. Alors évidemment, il y a aussi des excès dans la Commune, il y a le sang coule et ce n'est pas positif, mais il y a des choses intéressantes. Il y a une utopie autogestionnaire, des projets très favorables à la lutte contre les inégalités, à la place des femmes, il y a des figures incroyables comme Louise Michel. Beaucoup de joie aussi pendant l'exercice de la Commune, parce qu'avant le sang versé, il y avait aussi les idées échangées, les rires et la fête.
Vous avez ouvert sur une question que j'allais vous poser. Paris, c'est une ville qui a une tradition révolutionnaire, comme vous l'avez dit, plus forte qu'ailleurs. Elle a porté d'abord la Révolution, ensuite la Commune, etc. Elle est souvent mise en avant comme étant en rupture avec le pouvoir national. Jacques Chirac s'en est servi comme plateforme pour battre Valéry Giscard d'Estaing ensuite. Est-ce que vous, Gaspard Ganzer, avec votre mouvement parisien, est-ce que vous représentez la rupture avec le président Emmanuel Macron? C'est quoi votre rapport à ça, justement, la rupture avec l'État central?
Alors vous avez raison de parler de la Révolution française et de la Commune, mais avant on aurait pu parler aussi, j'aurais pu citer cet exemple, d'Étienne Marcel, parce que vous savez qu'Étienne Marcel a été prévôt des marchands, le premier à se dresser contre le pouvoir royal et à montrer que le pouvoir royal devait pouvoir être limité. Donc c'est toujours de Paris que partent les révolutions contre le pouvoir central. Moi, je n'ai pas l'objectif d'aller contester Emmanuel Macron, ce n'est pas un projet politique de s'opposer au président de la République. En revanche, ce que je pense, c'est que quand l'État incarné par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, manque aux Parisiens. C'est-à-dire que quand ils ne s'occupent pas de la sécurité des Parisiens, quand ils ne s'occupent pas des migrants qui sont laissés à eux-mêmes dans les rues de Paris, quand ils reportent des projets considérablement importants pour les grands Parisiens comme le Grand Paris Express, eh bien là, il faut hausser le ton face à l'État. Parce qu'il faut défendre les Parisiens. Et donc moi, si je deviens maire de Paris, je me battrai tous les jours pour défendre les Parisiens, y compris contre l'État, si celui-ci manque à ses obligations vis-à-vis de Paris.
Alors, vous êtes à la tête d'un mouvement citoyen. Est-ce que vous le qualifiez comme ça déjà?
Oui, c'est comme ça. Enfin, c'est toujours difficile de définir quelque chose qu'on a créé soi-même avec d'autres. Mais oui, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement horizontal. Je suis l'humble fondateur et porte-parole de ce mouvement, mais je ne suis pas d'ailleurs le seul à porter la parole de ce mouvement. Mais c'est un mouvement qu'on veut ultra-démocratique dans ses fonctionnements.
D'accord, alors mouvement citoyen, c'est un terme qui est quand même assez fourre-tout. Souvent, on utilise ce terme comme pour pas dire qu'on est un parti, parce que le parti, ça envoie au Parti Socialiste, à des grosses entités. Voilà, j'imagine que c'est un peu votre démarche. Mais donc, dans le mouvement citoyen, il y a citoyen. Pourquoi est-ce que, quelle est la place? Est-ce que le citoyen a une place particulière dans votre démarche? Est-ce que vous pouvez l'expliciter? En quoi est-ce que vous, différemment d'un autre?
Vous avez raison de dire qu'on construit toujours une aventure politique pour quelque chose. Donc nous, c'est pour les Parisiennes et pour les Parisiens, mais aussi contre. Et c'est vrai que moi, je considère que le système partitocratique incarné par La République En Marche, le Parti Socialiste et les Républicains a vieilli. Ces partis sont sclérosés parce que trop hiérarchiques, trop bureaucratiques. Et paradoxalement, alors que La République En Marche est un parti qui a été récemment créé, il a singé très rapidement le pire du Parti Socialiste et des Républicains dans ses modes de fonctionnement. Opacité, bureaucratie, nomenclatura. On pourrait en rire, mais on a surtout envie d'en prouver, pour pleurer, parce qu'Emmanuel Macron avait promis de faire de la politique autrement. Donc nous, avec Parisienne Parisien, on essaie d'avoir une démarche plus simple, plus humble peut-être, et on décide de repartir de zéro systématiquement tous les jours en allant parler avec les Parisiennes et les Parisiens là où ils vivent, là où ils travaillent. Donc on va dans les cafés, on va dans la rue, on va dans les appartements, on écoute, on écoute, on écoute, on dialogue, et puis après on parle et on tente d'exprimer nos propres convictions. Mais c'est un parti citoyen, un mouvement citoyen, parce que c'est un mouvement de l'écoute et du dialogue et pas de l'idéologie, de la bureaucratie et de la nomenclature.
Eh ben, c'est parfait.
Je vous en prie.
Vous avez votre idée principale, je ne sais pas si c'est votre idée principale, mais c'est comme ça qu'elle est utilisée souvent dans les médias, c'est la destruction du périphérique de Paris. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre cette idée-là qui est quand même assez radicale, alors que vous êtes plutôt classé au centre-gauche-centre? Qui n'est pas habitué à faire des révolutions ni à faire prendre des grands axes radicaux comme ça. Donc pourquoi est-ce que vous voulez supprimer le périphérique parisien? Et j'ai juste un petit truc, c'est est-ce que vous pouvez vous avez des éléments de langage et vous allez les utiliser sur tout le terme de la campagne. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet sans utiliser des
Ouais,
éléments de
je vais dire les choses de
langage?
façon différente. Non, non, je pense que d'où vient ma réflexion? C'est-à-dire que en réfléchissant à cet engagement pour Paris, je tournais autour de toujours la même question. Je me rendais compte que la ville était trop petite et qu'on n'arriverait jamais à résoudre les problèmes de propreté, de sécurité, de logement, les problèmes des familles, les problèmes d'environnement, si on restait dans notre périmètre étriqué des 20 arrondissements parisiens. Et je me suis dit qu'il était plus que jamais urgent de renouer avec l'histoire de Paris. L'histoire de Paris, c'est l'agrandissement de cette ville. L'île de la Cité, les murs des fermiers généraux, l'enceinte de Thiers, dont on parlait tout à l'heure. Et la ville est bloquée dans ses frontières depuis 1860. Et donc, moi, je pense qu'il faut changer totalement de perspective. Il faut élargir Paris, agrandir Paris, non pas dans une optique de conquête et d'écrasement des autres, mais de rassemblement. Moi, je pense que Paris et sa banlieue doivent être rassemblées. Et donc, vraiment, j'ai une conviction. Elle m'est apparue au fil de la campagne, déjà, c'est que le prochain maire de Paris doit être le dernier. C'est qu'on doit élire un maire de Paris en mars 2020, dont le principal mandat, ça doit être de préparer l'avenir et de préparer sa propre disparition, et que lui succédera un maire du Grand Paris qui sera élu, et je l'espère, au suffrage universel, par l'ensemble des habitants du Grand Paris. Parce qu'en réalité, quand on prend une décision à Paris, elle a des impacts à Saint-Denis, à Montreuil, à Boulogne, à Neuilly, à Saint-Ouen, à Montrouge. Et donc il n'est pas normal qu'on ait simplement un maire de Paris élu par les habitants de Paris intramuros, alors que les décisions qu'il prend ont des impacts au-delà. Et les gens qui habitent à Montrouge, à Montreuil, à Bagneux, à Saint-Ouen et partout dans la métropole du Grand Paris viennent travailler à Paris, ont habité à
Bien
Paris, ont
sûr.
vocation à y habiter. Donc il faut qu'on décide démocratiquement tous ensemble. Et ça sera le grand chantier du prochain mandat, c'est de préparer cette transition entre la mairie de Paris et le Grand Paris. Et pour le faire, il faut accepter que les Parisiens partagent le pouvoir avec l'ensemble des habitants du Grand Paris. Et donc je pense qu'il faut du courage politique pour le faire, parce que ce n'est pas une idée facile à défendre, mais c'est celle que je défends. Et c'est ça qu'il y a derrière l'idée du périphérique. Si je veux supprimer le périphérique, ce n'est pas simplement parce qu'il est pollué, parce qu'il est moche, ou parce qu'il nous permettrait de récupérer de la place pour faire des espaces verts, ou des logements, ou des services publics. C'est parce qu'en fait, plus fondamentalement, je pense que tant qu'on aura le périphérique, on ne pourra pas construire le Grand Paris. Donc pour construire le Grand Paris, il faut supprimer le périphérique.
D'accord. Alors, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est si on agrandit Paris, où est-ce qu'on s'arrête?
Ça, c'est une question dont il faut débattre. Il y a plusieurs façons de le voir. Certains pensent que le Grand Paris, c'est la région de France. Je ne le pense pas, parce que dans la région de France, il y a aussi
Même très
des terres
large.
agricoles, et puis c'est vraiment très large. Donc je pense que le bon périmètre, c'est l'aire urbaine, c'est-à-dire là où il y a une continuité urbaine. Ça correspond à ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la métropole du Grand Paris. Je pense que ça n'a pas de sens que les champs de Seine-et-Marne soient inclus dans la métropole du Grand Paris, dans le Grand Paris. En revanche, que toute la zone dense, Bobigny, Saint-Denis, Saint-Ouen, Bagneux, Montrouge, de soi dedans, et peut-être les aéroports aussi, ça a du sens.
Ok. Alors, est-ce que ensuite j'imagine que si vous êtes élu maire, vous présenterez à la mairie du Grand Paris ensuite. Donc, est-ce que vous avez un avis sur des projets qui sont sur deux projets, la privatisation d'Aéroports de Paris et le projet Europa City? Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur ces deux projets-là qui sont en frontière de Paris, mais du coup.
Bah, ça va être rapide et peut-être un peu brutal. La privatisation d'aéroports de Paris, j'y suis hostile parce que je pense que c'est une infrastructure essentielle et en plus extrêmement rentable. Et donc je pense que l'État a intérêt à en conserver la propriété, tant pour des raisons de souveraineté et de sécurité que pour des raisons économiques, parce que c'est quand même dommage de se priver de quelque chose qui est bénéficiaire. Et d'autre part, pour Opacity, je suis contre ce projet, parce que je considère que quand on a des terres rares, des terres agricoles, même si tout le monde cherche le développement économique et c'est positif, il faut les conserver et les préserver, parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des espaces verts, des terres qui sont cultivables, qui sont développables pour l'alimentation, pour la biodiversité. Ce qui nous manque, ce n'est pas des centres commerciaux géants, surtout à l'époque d'Amazon et du commerce numérique.
Alors là, et ma deuxième question par rapport au périphérique, c'était, le périphérique, c'est quand même l'endroit. Vous voulez agrandir Paris, mais l'idée de supprimer le périphérique, ça renvoie un petit peu à l'idée de, on agrandit Paris, on coupe la séparation de Paris, mais un peu contre ceux qui utilisent leur voiture pour venir dans Paris. C'est quoi votre solution par rapport à ça? Comment est-ce qu'on fait pour que les travailleurs dont vous avez parlé, qui habitent en banlieue, mais qui viennent travailler à Paris, ils puissent continuer à venir travailler à Paris?
Alors, il faut d'abord choisir la bonne méthode pour transformer et détruire le périphérique. La bonne méthode, c'est de se donner le temps pour le faire. Donc, pour ça qu'on propose de le faire en 15 ans. La bonne méthode, c'est de vraiment avoir une concertation avec l'ensemble des communes voisines de Paris. La bonne méthode, c'est aussi de consulter les grands Parisiens et tous les habitants du Grand Paris. Donc, moi, je propose, au bout de 3 ans, en 2023, d'organiser un grand référendum sur la transformation du périphérique qui concernerait tous les habitants du Grand Paris, donc de les associer. Et puis après, en termes de méthode et de transformation du périph, il faut le faire tronçon par tronçon, progressivement, pour permettre aux alternatives en matière de transport de se développer. Il y en a une qui est déjà en cours de réalisation, qui est le Grand Paris Express. C'est ce métro qui permet de faire le tour de Paris, mais il faut en inventer d'autres. On peut imaginer d'autres lignes de tram, d'autres lignes de bus. Moi, je propose aussi la création d'un vaporetto parisien, qui serait un bateau de transport de voyageurs qui irait peut-être de la Défense jusqu'à Créteil, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas le transport fluvial. Et puis après, demain, il y aura des innovations technologiques qui nous offriront d'autres solutions, comme le véhicule autonome. Mais ne nous en interdisons pas de faire évoluer le périmètre de la ville et des mobilités. On est à l'heure d'une révolution numérique, une révolution industrielle qui nous offre plein de possibilités. Donc restons pas bloqués dans des infrastructures du XXe siècle.
D'accord. Alors maintenant, je vais passer un petit peu à l'écologie parce que je sais que vous avez fait alliance avec Isabelle Saporta,
Oui.
qui est une grande militante écolo,
Oui.
connue pour ça, qui a écrit plusieurs livres. Est-ce que c'est pour montrer. Alors, est-ce que vous êtes vérité. Est-ce que c'est une. Vous êtes converti à l'écologie dans l'idée de devenir maire de Paris, ou alors c'est vraiment une conviction profonde qui résulte d'une réflexion longue comme sur le périphérique.
Vous savez, les convictions politiques, elles se forgent avec le temps.
Bien sûr.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma famille vient de la droite. Moi, je suis devenu socialiste quand j'ai eu mes 18 ans et j'ai rejoint le Parti socialiste un peu plus tard, en 2002, alors que j'avais une vingtaine d'années. Je suis devenu progressivement hyper sensible, hyper concerné aux questions écologiques, ce qui m'a conduit à voter notamment à toutes les élections européennes pour les Verts, et depuis longtemps, hein, depuis 1999, en réalité, j'avais voté pour Daniel Cohn-Bendit déjà à l'époque, parce que je considère que la vraie question européenne et la vraie question mondiale, c'est la question de l'environnement, de la préservation de la planète, de la préservation de la biodiversité. Ça, je l'ai toujours pensé. Maintenant, je pense que cette question, elle est aussi centrale au niveau national et même au niveau local. Je me rends compte tous les jours, notamment quand je discute avec mes enfants. Je suis à la tête d'une famille recomposée de 4 enfants. Ils me parlent tous les jours d'alimentation durable, de qualité des repas, des modalités de déplacement qu'on utilise pour aller aux quatre coins de Paris ou pour partir en vacances. Donc je fais ma conversion. Donc moi-même, je mange moins de viande, je me suis acheté un scooter électrique, je roule davantage à vélo aujourd'hui, je privilégie les transports en commun à chaque fois que j'en ai l'occasion, je prends moins l'avion, j'achète moins de fringues. Donc voilà, je fais cette conversion personnelle parce que je considère que c'est essentiel pour l'avenir de nos enfants. Là, c'est pas dans une optique politique, parce que
Non,
je
tout
crois
à fait.
que les gens réfléchissent pas de cette manière-là. Tout le monde est finalement assez écolo maintenant aujourd'hui. Moi, en tout cas, à titre personnel, je le deviens, mais politiquement, je défendrais bien d'autres idées dans le cadre de la politique municipale, la construction du Grand Paris, mais aussi toutes les questions qui sont liées aux familles parisiennes, parce que je pense que c'est ça l'urgence, hein, la sécurité, la propreté, les transports et le logement.
Pour rester dans l'écologie, la maire de Paris actuelle, elle se veut elle se veut écolo. Le New York Times a titré sur elle la semaine dernière en parlant de son action écologique pour Paris. Pour autant, les Parisiens ont toujours beaucoup de difficultés à respirer. J'imagine que c'est de ça dont vous parliez quand vous parliez de vos enfants. La comparaison avec le déplacement, moi je viens de Bretagne, la comparaison quand je retourne en Bretagne ou quand je suis à Paris, elle est flagrante, vraiment, quand je sors du train, j'ai beaucoup plus de facilité à respirer. Comment est-ce que vous voyez les choses pour améliorer la qualité de respiration des Parisiens?
Il y a la question de la respiration, mais il y a aussi la question du bruit, et il y a la question de la chaleur en ville. Permettez-moi d'aborder
Sûr.
ces trois sujets. La question de la respiration, malheureusement, la situation s'est empirée à Paris depuis qu'Anne Hidalgo est maire de Paris, parce qu'en fait, les choix qu'elle a faits ont conduit à davantage de congestion et donc davantage de pollution. Les endroits qui sont ultra pollués à Paris, qui n'étaient pas auparavant, la rue vers Saint-Méry, dans le centre de Paris, le boulevard Saint-Germain, porte de Montreuil, porte de Bagnolet, porte Maillot, parce qu'il y a trop de congestion automobile et donc beaucoup plus de pollution. Donc je pense que si on veut réduire durablement la pollution, il faut être dans l'écologie positive, développer les transports publics propres, le métro, le bus. Ça me semble être la priorité. Donc moi, en matière de déplacement, je privilégierai l'investissement en faveur du métro, du tram et du bus, parce que ça, je pense que c'est le plus important. Il faut le faire avec la région. Pour lutter contre la pollution sonore, de la même manière, je favoriserai la conversion évidemment au vélo, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais aussi à la propulsion électrique, scooter électrique, voiture électrique. C'est dommage que Vélib fonctionne moins bien, même si on avait imaginé la propulsion électrique pour Vélib, et surtout qu'il n'y ait plus d'autolib, parce que c'était aussi beaucoup plus acceptable en matière de pollution sonore. Et puis enfin, il y a la question de la température de la ville. L'été dernier, on a vécu trois épisodes caniculaires, on a à plusieurs reprises dépassé les 40 degrés, je crois qu'il y a même un jour, il a fait 45 degrés à Paris, ce qui est inimaginable. Pourquoi? Parce qu'au cours des dernières années, on n'a pas pris les bonnes décisions en matière de verdissement de la ville, de construction des espaces verts, d'introduction de davantage d'espaces de respiration. La ville est trop dense par certains endroits, trop bitumée, il y a trop de cailloux, il y a trop de goudron. Et donc je crois qu'il faut faire sauter le béton, il faut dégoudronner. Moi je propose que 10% des voies parisiennes soient à terme transformées en jardins publics ou en espaces de biodiversité.
D'accord, alors comment on fait ça? Parce que vous avez parlé de temps long, mais 10% c'est gigantesque.
10%, ça fait 600 voies, ouais. Il faut que ça soit évidemment, je ne propose pas de transformer l'avenue de l'Opéra en prairie, mais en revanche, il y a plein de petites rues qui sont peu empruntées par les voitures, qu'on pourrait transformer pardon, en espace vert. La rue dans laquelle j'ai grandi quand j'étais petit, la rue Boussicault, on pourrait tout à fait en faire un jardin public, par exemple. La rue Sarrazat, chantée par Aznavour, c'est la même chose. Dans le 16e arrondissement, il y a plein d'endroits qui pourraient être des espaces verts. Dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e, il y a plein de petites voies qui sont très peu empruntées par les voitures, et au lieu de les piétoniser, c'est-à-dire les transformer en trottoirs, eh bien, il faut les transformer en espaces verts. Je crois qu'on a trop cherché à fermer des rues à la circulation pour y mettre des cailloux et des trottoirs, là où il aurait fallu mettre des espaces verts. Plutôt que de piétoniser, il faut transformer des rues en espaces verts. C'est ça ma proposition.
On reste dans l'écologie. Actuellement, au moment où on est en train de tourner, il y a Extinction Rébellion qui a installé un camp, une sorte de zone à défendre sur la place du Châtelet à Paris. Vous prenez beaucoup d'écologie, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'Anne Hidalgo défende un blocage en plein milieu de sa rue, une action de désobéissance civile en plein milieu
Bah,
de sa ville?
je pense que la maire de Paris se trompe de combat. Je pense que c'est noble, évidemment, de défendre l'écologie, mais quand on est responsable politique, on n'est pas quelqu'un responsable de l'agitation et de la propagande dans sa propre ville. Le rôle d'Anne Hidalgo, c'est de défendre les Parisiens. Or, il y a des Parisiens qui subissent un préjudice en ce moment, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas aller travailler, qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc, je trouve que c'est inacceptable qu'il y ait un blocage qui dure comme ça pendant plusieurs jours. Je soutiens bien évidemment toutes les personnes qui veulent agir en faveur de l'écologie, mais on peut le faire de façon pacifiste sans empêcher les gens de vivre et de travailler.
C'est pacifique.
Oui, mais on empêche les gens de vivre et de travailler.
Mais est-ce qu'il ne faut pas passer par là? Est-ce qu'il ne faut pas, vu que Anne Hidalgo même, si elle là une action qui est plutôt écolo, etc. Est-ce qu'il ne faut pas en passer par là pour forcer la main
Et
des
je pense que
responsables politiques?
quand on est maire de Paris, on n'est pas, on ne doit pas être dans la protestation, on doit être dans l'action. Donc le rôle d'Anne Hidalgo, ce n'est pas de soutenir l'extinction, rébellion. Le rôle d'Anne Hidalgo, c'est d'agir au quotidien pour améliorer la vie des citoyens. Quand on est un responsable politique, on n'est pas la direction d'une ONG, on est dans l'action. Ce qu'on attend d'Anne Hidalgo, ce qu'on attend du maire de Paris, c'est qu'il y ait plus d'espace vert, que l'air soit plus respirable et qu'il y ait moins de bruit dans la ville. Pas de soutenir des gens qui bloquent un quartier entier de Paris et qui empêchent les gens de circuler, de travailler et de rentrer chez eux.
Alors, une question qui est un petit peu en rapport avec l'écologie. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez du fait de. Deux questions par rapport au métro. Qu'est-ce que vous pensez du fait de les ouvrir toute la nuit? Et qu'est-ce que vous pensez d'autonomiser, enfin de supprimer les chauffeurs en soi, donc
Ah
de rendre les métros autonomes, robotiser les métros. Je sais pas trop comment formuler ça.
oui, des rondes automatiques, on va dire, comme ça existe déjà dans
Oui, bien
certaines
sûr.
villes. Écoute, moi je suis favorable au métro la nuit. Je pense qu'on aurait dû le faire depuis très longtemps, que c'est une erreur que la région Île-de-France et la ville de Paris n'aient pas poussé davantage pour qu'il y ait des métros qui roulent la nuit. Bertrand Delanoë avait introduit le Noctilien, c'est des bus qui roulent la nuit. On pourrait tout à fait avoir quelques lignes de métro, comme il y a quelques lignes de bus qui roulent la nuit, pas toutes les lignes. Mais plusieurs lignes, on pourrait imaginer la ligne 1, la ligne 14, peut-être quelques lignes transversales comme la ligne 4 ou la ligne 12, peut-être le tramway aussi. Mais bien évidemment, il faut qu'il y ait des lignes qui roulent la nuit. Pourquoi? Bah, à la fois pour permettre aux gens qui font la fête de rentrer chez eux, mais aussi pour travailler, permettre aux gens qui travaillent la nuit de
Bien sûr.
rentrer chez eux, d'aller travailler. Quand vous êtes serveur dans un bar, moi j'ai été serveur, eh bien vous devez rentrer chez vous parfois à 1h du matin, 2h du matin, et bien il n'y a plus de métro, comment est-ce que vous faites? Vous payez un taxi, on vous paye un taxi, vous rentrez à pied. Et de la même manière, quand vous êtes femme de ménage, gardien dans une entreprise, vous devez arriver très tôt le matin, vous avez déjà des conditions de travail très difficiles, et bien vous n'avez pas de métro, comment est-ce que vous faites? Vous y allez à pied? Non.
Bien sûr.
Donc il faut des métros la nuit, bien évidemment.
Ok. Et du sur leur enfin,
Ah
sur
oui, le côté
l'autonomie des
automatique,
métros.
si c'est une des solutions qui permet d'améliorer l'usage des métros, pourquoi pas. Après, moi, je méfie quand même de la robotisation du monde. J'aime bien l'humain, je trouve que ça sert à les êtres humains, la convivialité, la relation humaine. C'est utile. Il y a quelques jours, j'étais dans un métro, une femme est tombée dans les pommes. Et ben, c'était bien qu'il y ait un conducteur, parce que comme ça, le conducteur a pu sortir, à aller voir, appeler les secours, etc. Et on était bien content de pouvoir tomber sur lui. Quand il y a eu cette femme qui était tombée dans les pommes, c'était pas grave, heureusement. Mais c'est bien d'avoir un peu de relation humaine et d'avoir des gens à qui s'adresser quand il y a des problèmes.
D'accord, alors j'ai une question sur Paris, c'est une ville qui est en tête d'énormément de classements culturels. On a énormément de cinéma à Paris, énormément de musées, bon, les plus grands musées du monde. Est-ce que vous avez des. Et ça, ça s'est souvent fait par des grands projets culturels, l'Opéra Bastille, etc. C'était plus le président, mais c'est le maire de Paris a son rôle à jouer là-dedans. Est-ce que vous avez des idées, vous, de grands projets culturels qu'on pourrait mettre en place à Paris et pour maintenir la culture, mais aussi pour développer la culture à Paris?
Je crois pas qu'il faut être dans une politique de grands travaux en matière culturelle. Il ne faut pas créer de nouveaux Barnums. Paris a déjà la chance d'avoir beaucoup de salles de spectacle, beaucoup de salles de cinéma. Il faut défendre, en revanche, les commerces culturels indépendants. Je pense aux petits cinémas de quartier, je pense aux librairies. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet en matière de culture, c'est développer l'éducation artistique. Donc on propose de doubler le budget de l'éducation artistique à Paris pour notamment permettre à tous les enfants, s'ils le souhaitent, d'aller dans des conservatoires ou d'aller vers en tout cas des pratiques artistiques libres et intéressantes. Pourquoi pour les conservatoires, mais aussi dans les centres Paris Anime, sur les centres d'animation de la ville de Paris. Et puis on propose aussi de développer largement les résidences d'artistes à Paris, parce qu'on considère que Paris doit être, toujours être une fête pour les artistes du monde entier. Moi je suis nostalgique d'une époque que je n'ai pas vécue, qui est celle d'Hemingway à Paris, travaillant là-dessus, ou après de la Beat Generation qui est venue à Paris après la Seconde Guerre mondiale.
Alors j'ai une dernière question à vous poser sur votre projet. Il y a quelque chose qui est choquant pour énormément de monde, énormément de. Que ce soit des gens qui habitaient en région ou des étrangers qui viennent à Paris, c'est les sans-domicile à Paris. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité pour l'action du prochain maire de Paris si je vous le souhaite, de mener une politique de logement pour tous, Qu'est-ce que vous est-ce que vous avez des idées là-dessus à proposer pour ça?
La lutte contre l'exclusion, c'est d'abord la responsabilité de l'État, mais la ville de Paris doit prendre toute sa part. Elle fait déjà beaucoup de choses d'ailleurs, hein, il faut le reconnaître, mais on peut faire davantage. Moi, j'ai pris un engagement, c'est que la première décision, la première action que je mènerai en tant que maire de Paris, c'est de sortir les enfants des rues. Aujourd'hui, il y a 500 enfants qui dorment dehors tous les soirs. C'est inacceptable dans une ville comme Paris. Et donc, j'ai pris cet engagement que, au cours des 3 premiers mois, on concentre toute notre énergie sur ce sujet. Comment faire pour aller chercher individuellement les enfants qui sont sans domicile fixe? Ils sont 500. Donc, avec les associations, avec les associations de réinsertion, avec les services sociaux, avec parfois les hôpitaux, avec la justice, avec la région, avec les communes limitrophes si c'est nécessaire, avec l'État si c'est nécessaire, il faut trouver des solutions individuelles pour chacun de ces enfants. Après, pour les adultes, et puis les autres, non, il faut trouver des solutions innovantes, à la fois de court terme, pour loger les sans-abri. Il y a eu ce centre qui a fait tant couler d'encre dans le bois de Boulogne. Au début, il a suscité beaucoup de controverses et d'oppositions, mais en réalité, il a été très bien géré, notamment grâce à l'intervention d'une association exceptionnelle qui s'appelle Aurore. Et bien, peut-être qu'il faut s'inspirer de ce genre de bonnes pratiques. Mais après, si on veut sortir les gens de la pauvreté et de l'exclusion, un, il faut traiter ceux qui sont malades, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont atteints de troubles psychiatriques, et donc là, leur place est à l'hôpital. Et puis pour les autres, il faut les insérer dans des programmes de long terme pour leur permettre de retourner vers l'emploi, en tout cas vers l'insertion citoyenne.
Vous avez un projet qui semble très bien défini alors que la campagne est loin d'être terminée. Pour autant, vous êtes alors je ne sais pas si vous y intéressez forcément, mais ça reste toujours un bon indicateur, vous êtes à 1% dans les sondages. Est-ce que vous croyez véritablement à votre victoire ou alors vous apportez des idées nouvelles, etc. Donc est-ce que, et c'est le cas de beaucoup de monde fait ça, se présente pour porter des idées, mais sans forcément croire beaucoup à sa victoire. Est-ce que vous croyez à votre victoire ou alors vous voulez mettre en avant les idées qui feront le Paris dans 10 ans ou plus tard?
Je ne fais pas de la politique pour avoir des postes, pour avoir un beau bureau à l'hôtel de ville, ou pour récupérer une fonction aussi noble soit-elle. Moi, je fais de la politique pour changer la vie des gens. Donc, pour changer la vie des gens et changer la vie des Parisiennes et des Parisiens, il faut d'abord mettre des idées sur la table. Et donc, pour mettre les idées sur la table, il faut aller écouter les gens individuellement, c'est ce qu'on fait. Il faut beaucoup travailler, c'est ce que l'on fait. Mais après, il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut pouvoir les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que je veux conquérir la ville de Paris, l'hôtel de ville, avec les membres de Parisiennes Parisiens qui sont aujourd'hui près de 2500. C'est parce qu'on veut changer la vie des gens. Et pour le faire, il faut qu'on accède à l'hôtel de ville, pour qu'on puisse ainsi rendre les clés d'hôtel de ville à tous les Parisiens. Et donc, je crois que c'est possible. Pourquoi je crois que c'est possible? Parce que j'ai une vision très noble de l'action citoyenne. Je crois que ceux qui ont le plus écouté les habitants et les citoyens, ceux qui ont le plus travaillé, ceux qui ont le plus d'idées, ceux qui ont le plus de modestie dans leur approche de l'élection, ils peuvent l'emporter. Pour l'instant, les sondages, ils reflètent quoi? Ils reflètent une ambiance générale, la notoriété de tel ou tel candidat, la popularité de
Vous êtes
tel ou tel
connu?
candidat. Je suis moins connu que d'autres. J'ai la chance d'être plus connu que des gens qui n'ont jamais eu accès soit aux médias, soit écrit de livres, soit exercé de fonction. Donc j'ai la chance d'avoir, par le travail, par le mérite, je crois, aussi réussi parfois à me distinguer, non pas par ce que j'ai fait, mais parfois les idées que j'ai défendues ou les gens que j'ai pu servir. Parce que j'ai beaucoup servi. J'ai servi Delanoë, j'ai servi Fabius, j'ai servi Hollande, j'ai servi Girard et bien d'autres. Donc je crois que c'est possible parce qu'on a fondé un collectif citoyen avec des gens exceptionnels qui travaillent beaucoup, qui sont tous les jours sur le terrain. Et je veux croire, et j'y crois profondément, que ceux qui sont les plus sincères dans leur démarche, ceux qui ne courent pas après des fonctions, ceux qui ne cherchent pas à avoir un strapontin à l'hôtel de ville, ceux qui ne veulent pas avoir de beaux bureaux, mais qui veulent juste changer la vie des gens, parce qu'ils pensent que c'est le plus important dans l'action politique, ce que l'on fait pour les autres, eh bien je veux croire que ceux qui sont dans cette démarche, c'est-à-dire nous, les Parisiennes et les Parisiens, eh bien on pourra l'emporter au bout du compte. Peu importe ce que disent les sondages, on les fera mentir.
C'est une rhétorique quand même assez connue et assez utilisée, la rhétorique de on fera mentir le sondage.
Bah, je ne vais pas vous dire le contraire.
Non, bien sûr,
Si je vous disais le contraire, je veux dire, on va donner raison au sondage. Là, vous me prendriez
c'est
vraiment
vrai,
pour un faux.
en effet.
Donc, moi, je suis combatif. Vous savez, je ne cours pas aussi court de la victoire. Vous l'avez dit aujourd'hui, on est très bas dans les sondages. Donc, n'importe qui à ma place aurait jeté l'éponge. Tout le monde se serait résigné. Tout le monde aurait abandonné. Mais moi, pourquoi est-ce que je ne me résigne pas? Pourquoi est-ce que je n'abandonne pas? Parce que je crois en la force des idées que nous défendons pour la famille, pour le périphérique, pour le Grand Paris, pour l'écologie, pour la sécurité, pour le logement, pour les transports.
Je reste quand même sur les sondages.
Bien sûr.
Vous êtes, moi je trouve, alors c'est peut-être parce que je vous ai suivi pour préparer l'interview, etc., mais vous êtes beaucoup plus présent dans les médias, etc., que Daniel Simonet, qui est à 4-5% candidat de la France Insoumise, ou Pierre-Yves Bournazel, qui est à 5-6%, qui sont quand même 6 fois plus élevés que vous dans les sondages. Est-ce que vous trouvez ça démocratique?
Les sondages veulent toujours dire quelque chose. Donc si je suis bas dans les sondages, c'est certainement parce que j'ai aussi commis des erreurs, peut-être. Je ne sais pas exactement lesquelles. Je m'interroge, hein, sur moi-même, parce que je suis quelqu'un qui, en permanence, tente de penser contre lui-même en se disant est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Etc. Je suis déterminé sur le fond, parce que je sais que je me bats pour les Parisiennes et les Parisiens, mais je ne pense pas avoir la vérité suprême sous le bras. Donc je peux certainement beaucoup mieux faire. Donc à chaque fois qu'il y a des mauvais sondages, je ne me dis pas c'est injuste, ça veut rien. Quand je me dis il faut que tu travailles encore plus d'abnégation, tu dois te battre. Et je pense qu'au bout du compte, ceux qui auront le plus travaillé, ceux qui seront le plus sincères, ceux qui seront les plus combatifs, eh bien ils l'emporteront.
Alors, il me reste quelques questions. Vous avez travaillé, après avoir quitté l'Élysée, vous avez travaillé pour une boîte de communication qui s'appelle 2017, et vous aviez notamment un contrat avec Airbnb. Airbnb, c'est le grand combat de Yann Brossat, qui est adjoint à Hidalgo. Est-ce que vous n'y voyez pas, ou est-ce que vous ne voyez pas le risque d'un possible conflit d'intérêts si vous devenez maire de Paris, ou même pendant la campagne? Qu'est-ce que vous avez
Et
à
bien, il se trouve
répondre à ça?
que moi, j'ai pas travaillé personnellement pour ce client, c'est Nathalie Yanetta qui l'a fait. Mais moi, j'ai forgé ma conviction sur Airbnb. Il faut réduire la place d'Airbnb à Paris. Je pense que Airbnb prend trop de place à Paris. Je pense qu'il y a trop de nuitées pour Airbnb à Paris. Je pense qu'il y a des quartiers entiers qui sont en train de se vider de leurs habitants, notamment à cause des locations meublées touristiques comme Abritel et Airbnb. Donc moi, si je deviens maire de Paris, je peserai de tout mon poids, dans la continuité de ce qui a été fait par Yann Brossat et Anne Hidalgo, pour réduire la place de ces locations meublées touristiques. Parce qu'il y en a trop. Peut-être que c'est utile pour certains pour avoir des recettes de poche ou pour se loger pour pas cher. Mais il faut de la mesure et de l'équilibre. Il y a des quartiers entiers qui sont en train de se vider de leurs habitants, notamment parce qu'ils sont devenus simplement des immeubles avec des locations meublées touristiques pour Airbnb. Donc moi, maire de Paris, je vous garantis que je ferai tout pour réduire la place d'Airbnb.
D'accord, bon voilà, on est loin du conflit d'intérêts. Vous avez parlé d'Hemingway tout à l'heure, vous faites beaucoup de place. J'ai lu vos livres, vous avez écrit 2 livres. Vous faites beaucoup, notamment dans le dernier, référence à la littérature, à des hôtels, à des foules, pardon, à des auteurs qui ont fait appel à Paris, à son imaginaire. Si vous ne deviez garder qu'un seul livre à nous citer sur Paris, ou 2 ou 3, si vous en avez
C'est
un.
vrai que j'aime bien Paris est une fête
Ouais, s'il vous
d'Hemingway
plaît.
parce que c'est un livre écrit par un étranger sur Paris et donc il a évidemment un regard plus romantique certainement que les Parisiens mais un regard plein d'amour. C'est le regard d'un amoureux de Paris. Et il décrit un Paris tel qu'on voudrait certainement le retrouver aujourd'hui. C'est un Paris créatif, joyeux, entraînant. Et avec la plume exceptionnelle d'Ernest Hemingway, c'est vrai que c'est extrêmement séduisant. Et après, au risque de vous surprendre, je trouve qu'il y a 2 auteurs qui parlent extrêmement bien de Paris aujourd'hui. Je vais en dire 3, allez. Modiano, qui est vraiment exceptionnel par son approche de Paris, et d'ailleurs qui est lié à sa propre vie. Dans Un Pédigré, qui est un peu son autobiographie, il raconte son parcours de jeune parisien, et on se reconnaît forcément dans ce parcours de jeune parisien, même si ce n'est pas du tout la même époque, hein,
Sûr.
il y a de très nombreuses années. Et puis après, il y a deux autres auteurs contemporains qui m'intéressent beaucoup sur Paris. C'est Houellebecq, d'un côté, qui
D'accord.
décrit très bien Paris. Dans son dernier ouvrage, Sérotonine, par exemple, le premier tiers du livre se passe dans le quartier de Beaugrenelle, dans lequel j'ai grandi, dans une tour qui s'appelle la tour Totem, je crois, qui est juste au cœur du Front de Seine. Et puis il y a Virginie Despentes, qui, notamment dans Vernon Subutex, a livré une version totalement rock et déjantée de Paris qui m'a bien plus.
D'accord, très bien, bah c'est retenu. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision rapidement de Paris dans 10 ans si vous êtes élu maire de Paris?
Rapidement, c'est difficile, mais si je devais en retenir quelque chose, ça serait un Paris ouvert sur le monde, ouvert sur tous les territoires de la France, parce que je pense que Paris doit rester une ville ouverte, une ville dans laquelle on vient réussir sa vie, on vient fonder une famille, dans laquelle on reste, on part, on passe, on peut passer toute sa vie aussi, comme c'est mon cas. Donc une ville ouverte, une ville diverse, dans laquelle il y ait des personnes âgés, des plus jeunes, des actifs, des inactifs, des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions, de tous les revenus, de toutes les situations. Parce que le pire, ça serait l'homogénéisation de Paris. Une ville profondément créative, insolente, irrévérencieuse, qui ne dise jamais oui par principe, mais qui sache dire non, non à l'État, non à l'oppression, non à tout ce qui peut porter atteinte à la liberté ou à la solidarité. Et puis en fait, une ville qui aurait grandi pour permettre à ses familles d'y vivre dignement. Une ville dont le périmètre aurait changé serait aujourd'hui à l'échelle de la métropole du Grand Paris, une ville dans laquelle les logements seraient plus abordables, les rues plus propres, plus sûres et les transports plus fluides.
Est-ce que justement le fait d'agrandir Paris, est-ce que le fait d'agrandir Paris aux banlieues proches, ça homogénéiserait pas justement et exclurait les classes populaires et les gens qui travaillent à Paris est-ce que le risque c'est pas de devenir que Paris devienne Londres et même en s'agrandissant exclut les classes populaires qui habitent en banlieue?
Je pense exactement le contraire. Je pense que l'agrandissement de Paris, c'est le meilleur moyen pour maintenir la diversité de Paris et la spécificité de chacun des villages qui composent Paris. Ce matin, par exemple, j'étais à Belleville. Belleville a conservé son identité malgré l'agrandissement de Paris il y a un siècle et demi, même si évidemment les choses ont aussi changé. Je crois que Paris est riche de toute cette diversité de territoires, de familles, d'origines, de milieux. Et je pense que justement, en agrandissant Paris, on retrouvera de l'air et de l'espace pour que chacun puisse vivre dans sa diversité, dans cette grande métropole du Grand Paris. Je pense que justement, c'est l'agrandissement de Paris qui permettra, à la petite échelle, de maintenir la diversité des quartiers parisiens.
Très bien. Alors j'ai une dernière question. Et puis,
Allez-y.
est-ce que vous êtes formé politiquement sur du long terme, on en a parlé. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'était par le biais de lectures, de rencontres, et est-ce que vous avez des conseils pour participer à la formation politique citoyenne des citoyens, des jeunes comme moi, comme tous les jeunes de Paris, mais pas que de Paris. Est-ce que vous avez des conseils de lecture ou de, je sais pas, de comment est-ce que vous avez fait pour vous former politiquement et est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes générations?
Moi, mes parents ne sont pas du tout dans la politique. Ma mère est médecin, mon père est ostéopathe. Et dans ma famille, on avait plutôt tendance à faire des sciences et aller passer des concours comme l'internat pour aller soigner les gens plutôt qu'à faire de la politique. Donc, je me suis intéressé à la politique sans y avoir de prédestination familiale. Et je le dois certainement au professeur que j'ai rencontré au lycée. J'étais un lycée dans le 15e, il s'appelle le lycée Louis-Armand, qui est un lycée plutôt, on va dire, faible ou mauvais, on va dire, mais j'y avais des profs exceptionnels qui m'ont intéressé à la sociologie, qui m'ont intéressé à l'histoire, qui m'ont intéressé à la littérature. Et en fait, au-delà de ce qu'ils m'ont apporté sur le fond en termes de connaissances, c'est dans ce lycée que j'ai peut-être développé mes premières indignations contre les inégalités sociales, contre les inégalités territoriales. C'est de là que vient mon indignation, peut-être la colère qui a justifié le départ de mon engagement politique et ma volonté de servir les autres, de réparer les inégalités, d'aider les autres. Parce que moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille qui, sans être très riche, était une famille de classe moyenne qui arrivait à vivre à Paris. Et je veux aujourd'hui rendre à la République et à Paris, tout ce que cette ville et cette République m'ont donné. Et donc je pense que chacun doit faire son propre chemin. On a tous sa propre indignation, sa propre culture, sa propre colère, sa propre joie, sa propre ambition, ses propres valeurs. Et il faut les cultiver en rencontrant les autres. Parce que je pense que la meilleure façon de faire de la politique et de se former politiquement, c'est certes de faire des lectures, mais c'est surtout de rencontrer des gens.
D'accord. Eh ben, merci
Bah,
beaucoup,
merci à
Gaspard.
vous.
Nous espérons que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Vous pouvez retrouver cette vidéo en podcast sur PodCloud. On est bientôt sur Apple Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter pour être mis au courant de la sortie des futures vidéos. Par ailleurs, Civis recherche des invités qui sont spécialisés dans des domaines les plus variés possibles, que ce soit le cinéma, la littérature, l'économie, l'écologie ou la politique, comme Gaspard Ganzer. Si vous avez des idées ou que vous connaissez des personnes susceptibles d'être intéressées pour répondre à nos questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez nous contacter par message via Twitter ou par mail à l'adresse civispodcast@gmail.com.